Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il n'y a rien de plus humiliant que de recevoir une gifle, surtout quand elle vient d'un de ses parents, et encore plus quand on est adulte et prince de sang. Stéphane Bern nous raconte le futur régent qui s'est pris un sacré soufflet en public de la part de sa maman, Philippe d'Orléans.
Mettez une petite laine, Mathieu, je vous emmène à Versailles. Nous sommes le 9 janvier 1692. Le vent s'engouffre dans la galerie des glaces. Bon, quelqu'un a laissé une porte entrouverte. Cela ne va pas arranger l'ambiance déjà carrément glaciale. Philippe d'Orléans, 17 ans, neveu du roi de France Louis XIV, a l'air inquiet. Il s'avance vers sa mère pour lui baiser la main. Tout le monde sait bien que la princesse Palatine n'a pas sa langue dans sa poche. Eh bien, il se trouve que ses mains non plus. Hein. Devant les courtisans médusés, la mère décoche à son fils un soufflet si sonore qu'il fut entendu de quelques pas. La discrétion n'a jamais été son fort. Personne ne peut passer à côté de cette gifle que reflètent les 357 miroirs de la galerie des glaces. Le futur régent a les yeux mouillés, la joue rouge. Mais qu'a-t-il donc fait pour mériter ça? C'est dans la chaleur étouffante du mois d'août que Philippe d'Orléans voit le jour en 1674. Dans le château de Saint-Cloud, qui accueille le nourrisson, les parents enchaînent les réjouissances. L'ambiance est à la fête. Le précepteur de l'enfant, l'abbé Dubois, n'est pas écrasé par ses scrupules religieux. Il aide Philippe à se faire déflorer à 13 ans par une comtesse qui en a plus de 50, car après tout, tel est le destin sexuel des jeunes princes. Résultat, à 14 ans, Philippe d'Orléans est déjà papa. Oui, il a mis enceinte la fille du concierge des meubles du Palais Royal. Le rôle de père avec une domestique, oh, très peu pour lui, non. Il a goûté au plaisir de la chair et il en redemande encore et encore. Dubois lui trouve tous les jours une nouvelle maîtresse, selon le mémorialiste Saint-Simon. Détruit, décochonne, se précipite partout autour de lui, écrit-il. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est sa propre mère aussi.
C'est bien de le préciser.
Oui, c'est la princesse Palatine qui l'écrit. Louis XIV voit d'un mauvais œil les agissements de son neveu. Pour canaliser ses ardeurs, il cherche à le marier. Mais avec qui ? L'heureuse élue n'est autre que sa propre fille. Françoise marie une fille illégitime qu'il a eue avec Madame de Montespan. Quoi de mieux pour la légitimer que de lui faire épouser un prince du sang ? Philippe, alors duc de Chartres, n'est pas très motivé. Il a tellement de choses à apprendre, passionné de science et de nouveautés qu'il ne songe pas à se marier. L'abbé Dubois parvient à le convaincre en lui faisant miroiter des commandements militaires, de nouvelles gratifications et mieux encore, l'estime de son oncle. En fait, il n'a pas vraiment le choix. On ne refuse rien au roi. Celui-ci intervient quand même. Le 11 janvier 1692, Louis XIV convoque son neveu. Il lui donne de nombreux arguments visant à le convaincre. L'Europe est à feu et à sang. La guerre empêche toute alliance avec une princesse étrangère. Il lui précise qu'au sein du royaume, aucune princesse de sang n'a son âge et qu'il est prêt à offrir une dot de 2 millions de livres pour l'acquisition de seigneuries et de terres. Le roi dit ne pas vouloir le contraindre, mais le mémorialiste Saint-Simon raconte que le discours est prononcé avec une majesté si effrayante qu'il n'est plus temps de refuser. Contraint et forcé, le duc de Chartres répond donc « oui ». Dans la foulée, on envoie chercher Madame, sa mère, la princesse Palatine. N'ayant pas d'autre choix, elle se soumet elle aussi. Mais la honte pour sa famille que son fils épouse une fille légitime et si grande qu'elle ne peut cacher son désespoir. Le soir, elle se promène, son mouchoir à la main, pleurant sans contrainte, parlant assez haut, gesticulant devant les courtisans. De son côté, résigné, Philippe d'Orléans joue tristement aux échecs. Il a les yeux rouges. La princesse Palatine pleurniche ensuite tout le long du souper. Louis XIV tente de l'amadouer, mais rien n'y fait. Madame est fâchée. À la fin du dîner, le roi lui fait une révérence très marquée, à laquelle elle répond par une pirouette si juste que le roi, en se relevant, ne trouva plus que son dos et elle avançait d'un pas vers la porte. Quel affront ! Mais elle réserve un sort plus terrible encore à son fils. Le lendemain, ce n'est pas son dos, mais le dos de sa main qu'il reçoit en pleine face dans la galerie des glaces de Versailles. Et la future mariée dans tout ça ? À quoi ressemble cette mademoiselle de Blois ?
Ah oui.
Eh bien, selon l'avis de la princesse Palatine, elle ressemble à un cul.
Oh, Stéphane. Mais dans votre bouche, c'est choquant.
Il faut que je vous cite le portrait qu'elle en fait dans une lettre.
Oh.
Ma belle-fille est une désagréable et méchante créature. Elle ne s'inquiète pas de mon fils et méprise, monsieur, comme si elle était quelque chose de bon. Elle ne me fait rien, mais elle vit à mon égard dans une affreuse indifférence. Elle ne veut rien dire devant moi de ce qu'elle fait et reste quelquefois 15 jours sans venir me voir. Je la laisse courir et ne fais pas semblant de m'en apercevoir. Mais son arrogance et sa mauvaise humeur sont insupportables. Et sa figure est parfaitement déplaisante. Elle ressemble à un cul, comme deux gouttes d'eau. Elle est toute bistournée, avec cela une affreuse prononciation, comme si elle avait toujours la bouche pleine de bouillie et une tête qui branle sans cesse. Voilà le beau cadeau que la vieille ordure nous a fait. Dans ses mémoires, Saint-Simon reconnaît qu'elle n'est pas d'une beauté digne de sa mère. Ses sourcils sont pelés, ses joues pendantes et elle ne se déplace qu'en claudiquant légèrement. Celle qui devient duchesse de Chartres en 1692 est d'un orgueil si démesuré qu'elle croit avoir fort honoré Monsieur le duc d'Orléans en l'épousant. Il écrit aussi qu'elle est petite fille de France jusque sur sa chaise percée. Malgré la mésentente du couple, le duc et la duchesse d'Orléans donnent naissance à 8 enfants. Pourtant, même leur vie intime est loin d'être agréable. Philippe la surnomme carrément Madame Lucifer. Saint-Simon raconte encore que le dégoût d'un mariage forcé et si inégal lui fit chercher à se dédommager par d'autres plaisirs. En 1715, à la mort de son oncle, Philippe d'Orléans devient régent après moult manigances et le reste pendant 7 ans, jusqu'à sa mort en 1723. Entre-temps, des soufflets, il a dû en recevoir d'autres. Oh, pas de sa mère, non. Plutôt de ses très nombreuses maîtresses, car Philippe d'Orléans est resté dans la mémoire collective sous le surnom du régent débauché.
Europe 1, historiquement vôtre.